Test, c'est bon? Tu veux que je continue à parler? Tu me dis si ça va? Encore un petit peu? Alors là, on est bien. Il y a du soleil, il y a des oiseaux, de l'herbe, du bois, et même des pâquerettes.
Donc là, on est au Colomban. Le Colomban, c'est au départ un habitat communautaire. Je ne sais pas depuis quelle année ça existe, mais déjà pas mal d'années, qui avait été fondé par deux religieuses et un psychiatre. Voilà, pour aider les gens. Et puis, ils ont construit une salle de spectacle, et maintenant elle est utilisée pour des résidences, des concerts, des spectacles de théâtre. C'est un super lieu en pleine verdure. Et nous, ça fait 5 ans qu'on vient ici, francophone. Donc là, c'est l'espace commun où on mangera, on aura tous les repas, mais ça sera aussi l'endroit où on fera l'atelier de Mana pour l'interprétation et les textes. Donc là, on mange.
Et les autres chansons.
Et les autres chansons.
Et ça, en vrai, c'est super utile. Je l'attends. Avec...
Alors, là, ici, c'est la salle de Gilles, où on travaillera. Ah, c'est l'atelier de Gilles Mortiot, où vous travaillerez le son, les arrangements. Voilà, c'est une salle de pleine conscience et de yoga. Super lumineuse, mais pièce polyvalente. Et c'est ici qu'on enlève ses chaussures.
Ouais.
Ouais.
Moi, je sais pas jouer sans chaussures.
Non, j'aime pas.
Prends tes chaussures.
Donc,
Et là, on retombe dans la salle, en fait. Ah, donc oui. Là, c'est la salle où vous faites l'atelier scène avec Cédric. Ah, oui. Salut. Donc une salle. Là, il y a plus de lumière, donc on reste comme ça. Ah, voilà. On passe de l'autre côté. Et par ici, c'est les chambres. S'il vous plaît, on se suit. Donc ça, c'est une chambre. Et vous avez à chaque fois une salle de bain avec chaque chambre, et puis il y en a une plus grande, mais c'est pour ceux qui dorment à trois.
Yes.
Donc voilà, c'est des chambres.
Très bien.
Céline Maguin, je suis co-directrice de Francophone. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'asso, qui a mué depuis 2014 pour devenir ce qu'est Francophone aujourd'hui, avec deux pôle essentiel, on va dire. Il y a le festival, qui est la partie publique de Francophone en octobre à Bruxelles, dans une quinzaine de lieux. Et puis aussi, on travaille sur l'accompagnement. Et donc ça, c'est le parcours Francophone. C'est un accompagnement d'artistes résidant en Belgique et chantant en français. Les trois artistes sélectionnés, on les emmène en résidence. On commence aujourd'hui une série de 4 jours où il y a plusieurs ateliers. C'est vu un peu comme une formation, comme un lieu d'expérimentation aussi, où on va aller trifouiller tant dans leur musique que dans leur texte, voir un peu l'interprétation, où se place le projet. On va travailler la voix, la respiration, la scène. Mais c'est aussi un moment de rencontre entre les équipes de Francophone et les artistes pour discuter de où ils en sont, où ils veulent aller. Voilà ce qu'ils ont déjà comme entourage ou pas autour d'eux, ce qu'il faudrait pour aller un pas plus loin.
Pour vous, en quoi c'est important, pertinent d'avoir été sélectionné au tremplin de francophone ou même les autres?
Le plus important avant tout pour moi, c'est de te faire valider par les professionnels avant de te faire valider par un public, parce que les professionnels sont... En fait, détermine d'une certaine manière ce que le public va aimer. Et c'est pour ça que nous, avec notre projet, justement, on pourrait un peu m'appeler le rappeur de concours, parce que dès qu'il y a un concours, j'hésite pas à participer. Mais je trouve que ce qui est intéressant, moi, dans les concours, et c'est pour ça que je nous ai inscrits, c'est qu'en fait, ça te met des balises et ça te met en fait des repères, ce genre de concours. Parce que, ok, tu t'en donnes les moyens et tout, mais il y a toujours des trucs que tu vas zapper alors qu'ils sont primordiaux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je trouve que ce genre de concours, ça te permet, en fait, à travers des professionnels, de te mettre dans une optique où tu te mettrais pas forcément et où eux, ils pensent à des choses qui leur paraissent très évidentes. Pourtant, toi, t'es en mode, mais Mais non, pas du tout, tu vois. Mm-hmm. Quand, par exemple, on parle de, même de diffusion, d'attaché de presse, de tous ces bails-là, nous, quand on faisait la musique et tout de notre côté, on ne s'est jamais posé la question. On s'est toujours dit, ouais, mais notre musique, elle fonctionnera si elle fonctionnera. Alors qu'en fait, tu as des facteurs qui sont limite primordiaux pour, en fait, que, ton, pour que tes morceaux puissent atteindre en public, quoi, tu vois.
C'est un point de vue super intéressant parce que ça lui permet de se construire et d'être certain de ce qu'il fait avant de se lancer. Alors que moi, je suis à fond dans mes trucs tout le temps, je prends pas ce recul-là. Et le concours m'apporte cette maturité-là aussi parce que moi, des conseils de professionnels, j'en ai pas souvent. J'ai jamais été très fan d'aller chercher la vie des autres, en fait. J'ai jamais été là-dessus. Du coup, je fais tout moi.
Et qu'une première rencontre avec des pros ou d'avoir simplement un pied dans la porte ne signifie pas que tout va se dérouler devant soi. Et c'est très important de voir ça comme l'étape que c'est et de garder à l'esprit que le projet il est entre les mains des gens qui le tiennent et c'est à eux de pouvoir continuer à le faire avancer ensuite.
Les artistes sont souvent seuls et isolés en fait quand ils font leur projet et il y a vraiment ce besoin d'aller chercher, ok, qu'est-ce que tu penses de cette mise en scène, et c'est des avis qu'on donne après à eux de les construire et de se les approprier et de les mettre dans leur projet et de garder leur ligne artistique. Mais c'est une étape pour cette professionnalisation. Après, je dirais qu'il faut faire attention à pas toujours s'inscrire à tout, tout le temps. Il y a un moment, ce jeu des accompagnements et des tremplins, il faut un peu les lâcher, il faut faire sa route. Mais c'est pas mal pour se lancer, c'est un bon début pour se faire du réseau. Et en fait, il n'y a rien à faire, il y a besoin d'être vu quand on développe un projet, il y a besoin d'être un peu reconnu. Et Francophone, c'est une de ces étapes.
C'est vraiment dit, c'est que ça part, tu vois. Ça, c'est
bien. Moi, je m'appelle Cédric. Et je suis ici en tant que coach scénique, c'est-à-dire que mon travail consiste à être en salle de spectacle avec un artiste, un groupe, et de travailler avec eux, en fait, leur présence scénique, ce qui se passe sur scène, comment est-ce que va rendre leur spectacle au final. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais ça, et je crois que si je dois vraiment synthétiser ce travail-là, en fait, c'est faire rendre compte à l'artiste à quel point sa place est légitime et à quel point il a une puissance. Un artiste a une puissance énorme sur scène et qu'il doit s'en rendre compte et se sentir à l'aise là où il est, ce qui est très très compliqué quand on se retrouve sur une scène. Je vais commencer par le début. Les artistes qui arrivent ici sont à la fois très excités et en attente de beaucoup de choses, à la fois très craintifs parce que c'est délicat d'aller toucher à ce que va proposer un artiste sur scène. C'est son univers, c'est une espèce de manière de se mettre à nu et accepter de travailler ça avec des inconnus, parce qu'on ne se connaît pas encore, c'est toujours compliqué. Si je dois donner un conseil, il faut que les artistes qui montent sur une scène soient conscients, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, soient conscients de la puissance et de l'effet qu'ils ont sur un public. C'est important. Et sur une scène, on peut tout se permettre. Un public, généralement, est bienveillant. Quand on va voir un spectacle, on a envie de passer un bon moment. Donc, voilà, de voir des artistes qui sont... où on a l'impression qu'ils sont gênés d'être là, ça crée un malaise terrible. Donc voilà, se dire, en fait, je suis sur une scène, je suis sur un tremplin, je suis sur un concours, ou je suis à un concert, et ma place... Eh bien, elle est juste et elle est là.
Est-ce que vous avez un souvenir, un moment d'une date ou d'un moment qui, justement, là où vous vous dites « Ok, c'est cool, quoi ».
En gros, Tim était notre DJ avant dans mon ancien groupe de rap. Et je me rappelle, c'était le jour de son anniversaire. On a fait une des plus grosses dates, c'était au Reflector. Et c'était complet. Et en fait, c'était une de nos premières scènes. Et c'était incroyable. Imagine, t'as 18 ans et t'as 500 personnes. Peut-être qu'il y avait tes parents, tout ça, tout ça. Mais qui commencent à crier ton nom, qui font des pogos et tout. Alors que tu rappes limite dans les temps. Tu connais même pas encore forcément les termes techniques. Dès le début où on a commencé, entre guillemets, à vouloir une once de professionnalisme, on nous a balancé tout à la gueule en mode ouais, si vous bossez dur, etc., ce genre de truc que vous avez vécu, vous allez le revivre, tu vois. Et moi, c'est incroyable, tu vois.
Ça fait 20 ans que je fais de la musique, j'ai plein de groupes différents, plein de projets, et c'est depuis pas mal de temps qu'on a notre boulot à côté par rapport à des personnes qui ont vraiment le statut d'artiste ou vraiment qui sont vraiment voués à la musique. Nous, on a notre travail à côté aussi, et je crois que je suis arrivé à un moment, à un stade aussi où ça reste un plaisir, et je sais pas, j'ai l'impression un peu que cette ambition de passer pro, je sais pas si j'y croyais encore. Là, d'être pris dans un concours comme ça, ben, c'est enthousiasmant, mais ça implique des sacrés choix par rapport à nos vies, à ce qu'on a déjà fait au niveau de travail aussi, donc c'est un peu compliqué. C'est quand même financièrement quelque chose de très très difficile, et donc je sais pas si on se considère comme pro, si on a encore cette ambition de passer pro, si on se sent, je sais pas, moi je me questionne beaucoup par rapport à ça. Donc,
Ouais, moi je suis pas hyper à l'aise avec cette notion d'amateur, pro, semi-professionnel. Enfin, pour moi, c'est de l'art avant tout, et l'art, c'est une pratique, c'est une démarche personnelle, et c'est une démarche d'exploration de soi, en fait. Et c'est un parcours qu'on fait avec ses amis, si on est dans un groupe de musique. Je crois qu'ici, t'as affaire à des musiciens qui sont plus dans une démarche de construire quelque chose, un projet humain, avec un projet artistique derrière, et pas de construire de la musique comme on construirait une entreprise ou un projet qui est destiné à un public ou destiné à un marché. Et donc, je pense que dans notre univers, la notion de professionnel, la notion d'être un musicien de carrière, n'a pas énormément de sens, en fait.
C'est difficile comme question, parce qu'à partir du moment où tu fais du son, t'as envie de le partager bien, et si tu veux faire ça correctement, bah t'es obligé de te professionnaliser, parce que se professionnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de faire ça comme hobby et le faire comme... En fait, quand on fait un truc avec passion, on le fait avec professionnalisme, j'ai l'impression, de toute façon. Donc à partir du moment où j'ai eu envie de faire du son à fond, bah, je m'en suis donné les moyens. Quand t'es sûr que c'est ça que t'as envie de faire, bah, tu t'en donnes les moyens, en fait.
Oui, mais en fait, ce qui est très important, c'est de garder un rythme qui est que l'artiste peut tenir, en fait, et qui est sain. Et parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent sortir tous les morceaux qu'ils ont directement, et il y a plein d'exemples comme ça. Mais ça fonctionne pas, parce que s'il y a un hit par exemple parmi ses sons, il a déjà tout sorti et il peut pas tenir le même rythme, et il y a ces attentes de garder le même rythme. Voilà, on dit toujours, mais on les répète souvent, mais il faut qu'on fasse un marathon et pas un sprint, quoi.
Se rappeler aussi qu'il n'y a pas qu'une façon de, entre guillemets, réussir dans la musique et vivre de sa passion. Peut-être que il y a le stéréotype de l'ado qui se projette rockstar dans un groupe à succès, et en fait, ben c'est possible de s'accomplir artistiquement, de pouvoir en vivre de plein de façons différentes, et c'est avoir cette mentalité multicasquette où on sait qu'on est musicien, mais qu'on est aussi potentiellement son propre ingé son, son propre booker, son propre ceci, et plus on ajoute de cordes à son arc dès le début, plus on a d'opportunités qui peuvent se présenter. C'est ne laisser aucune pierre non retournée si on veut y arriver.
Si je pouvais me donner un conseil au moi d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, c'est se dire, bah, en fait, il ne faut pas avoir peur de, pendant 10 ans, ne pas gagner sa vie exclusivement avec la musique, parce que ça peut mener à des choix qui ne sont peut-être pas les mieux pour la recherche artistique, justement, mais se dire que, bah voilà, oui, je vais peut-être avoir un petit boulot à côté pendant encore les 10 prochaines années, mais que ça ne m'empêche pas de considérer mon projet déjà comme professionnel dans l'attitude et dans la manière dont je le gère, quoi.
Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga, une production de Fakir et du Xara Bruxelles, réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo, avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice Deboc. Voix off et montage, Nastassia Rico. Doublage, Letty Bidivanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM, Playwright, Court Circuit et la Jazz Station.